Bonjour Léa.
Bonjour David.
Léa, vous êtes cofondatrice du collectif Un jour un chasseur, un collectif lotois, mais vous êtes vous-même aveyronnaise. Et je rappelle que ce collectif a été créé suite à la mort, il y a un peu plus d'un an et demi, du jeune Morgan Keane, tué par un chasseur dans son jardin, on va dire par accident, hein, c'était pas un acte volontaire, mais enfin bon, en tout cas un acte au moins d'imprudent sur lequel on va revenir, parce que les suites judiciaires sont encore loin d'être terminées. Mais j'ai envie de vous appeler, Léa, parce que dites donc, pour un collectif du Lot, voilà, d'un petit département comme l'est l'Aveyron, vous n'avez pas peur de vous frotter aux grandes institutions françaises et parisiennes, après le Sénat, la Cour des comptes?
Oui, c'est les outils qui sont à ma disposition et il faut les utiliser parce que finalement, c'est des combats qui sont menés depuis longtemps, mais si on ne passe pas par là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, on a tenté ça.
Alors on va revenir sur le Sénat, la première affaire. Mais l'actu, c'est effectivement la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes s'est adressée aux citoyens il y a quelques mois de ça pour leur proposer de s'intéresser à tel ou tel sujet. Donc vous avez saisi la balle au bon pour proposer un rapport sur les financements publics à accorder aux fédérations et associations de chasse, c'est bien ça?
Oui, exactement. En fait, c'est peut-être quelque chose d'ailleurs que beaucoup de gens ignorent. Il y a une partie quand même de nos impôts qui est redistribuée via les régions, les départements et les communes aux fédérations de chasseurs. Nous, cet argent-là, on n'a aucun retour dessus, on ne sait pas à quoi il sert. Trouver les montants exacts, c'est aussi très compliqué. Et donc, on demande à la Cour des comptes des éclaircissements sur cet argent public.
Alors, puisque trouver les montants exacts, c'est très compliqué, vous avez peut-être un montant approximatif de ce que ça représente comme argent qui est attribué chaque année aux associations, aux fédérations de chasse par les différents niveaux strates administratives françaises.
C'est des millions d'euros. Mais après, nous, ce qu'on a réussi à trouver, c'est quelques chiffres sur les régions. Donc, par exemple, en Occitanie, c'est à peu près 600 000 euros par an. Après, on a essayé de chercher un détail, mais là, je ne peux pas vous dire de chiffres parce que c'est vraiment très compliqué de trouver pour chaque département et chaque région des montants. L'accès à l'information, il est très compliqué. Et en plus, même quand on a un chiffre, comme dans le cas des régions, on ne sait pas vraiment à quoi sert cet argent, en fait.
Ouais, alors, pour le coup, le détail des chiffres, à mon avis, avec la Cour des comptes, vous saurez tout, hein, parce qu'ils ont des experts et des moyens d'obtenir tous les chiffres qu'ils veulent. Donc, j'imagine déjà, il y a cette démarche-là.
Oui, ouais. Voilà. Nous, en fait, on voudrait donc connaître les chiffres et puis connaître exactement à quoi sert cet argent. Parce qu'en fait, la chasse, c'est une activité juridiquement, c'est un loisir. A priori, je ne paye pas d'impôts pour le foot, par exemple. On a du mal à comprendre à quoi sert cet argent, étant donné que les chasseurs payent un permis de chasse qui devrait. Mais oui, par exemple, on a retrouvé des chiffres en 2019. La région Île-de-France, elle a fait cadeau aux chasseurs de 57 000 euros de subvention pour acheter des faisans.
Des faisans
qui étaient destinés donc à être des faisans d'élevage, destinés à être chassés. Donc voilà, là, quand on lit des choses comme ça, on se demande comment est-ce que cet argent public, comment est-ce qu'on justifie ça au nom de l'intérêt général. Nous, c'est vraiment cette question-là qu'on se pose. Si vraiment on considère qu'il y a un intérêt général à la chasse, il faut que nous, on sache, on en connaisse exactement les chiffres et les aboutissants. Et on demande aussi, du coup, en même temps, à la Cour des comptes, en fait, de contrôler l'argent public qui est utilisé par les fédérations de chasseurs, mais aussi de se demander, en fait, est-ce que vraiment il y a un apport de la part des chasseurs à la biodiversité et de déterminer l'intérêt, en fait, de l'activité.
D'accord.
Parce que s'il n'y en a pas, c'est de l'argent qui ne sert à rien et qui pourrait être utilisé dans d'autres choses plus utiles.
Et alors vous, le but derrière, c'est quoi? C'est justement en faisant apparaître ces chiffres, ces sommes d'argent, peut-être de les faire diminuer à terme ou...
Oui, nous, on veut mettre en valeur que déjà, c'est des sommes conséquentes. Et qu'il y a des alternatives, et que c'est des alternatives qu'on nous reproche souvent, enfin, on nous dit souvent qu'elles sont très coûteuses. Donc, par exemple, la stérilisation des sangliers, mettre des systèmes de clôture pour préserver les cultures, justement, des dégâts causés par les sangliers. Il y a aussi des systèmes d'effarouchage, de piégeage. Donc, il y a des choses qui sont possibles, en fait, sans passer par la chasse. Et, mais on nous dit souvent, ça coûte trop cher, c'est pas possible, c'est impensable de faire ça. Donc nous, on aimerait bien savoir quelles sommes publiques, du coup, sont vraiment distribuées aux fédérations de chasseurs. Et du coup, c'est aussi un moyen de dire peut-être qu'avec ces sommes-là, on pourrait étudier les alternatives, en fait, à la chasse.
Cette demande d'un rapport sur les financements des fédérations de chasse, vous l'avez faite via une plateforme de la Cour des comptes qui s'en est saisie, qui a accepté de faire son rapport. Du coup, c'est quoi un petit peu leur délai? Quand est-ce qu'on aura tous ces chiffres et ce rapport?
Oui, alors ils ont lancé c'est une plateforme de contribution citoyenne qui a été lancée en mars. Et c'est la première fois qu'ils faisaient ça. Et donc là, il y a eu plus de 300 propositions. En fait, tout le monde pouvait proposer un sujet sur lequel, pour demander à la Cour des comptes d'enquêter sur tel ou tel sujet. Et donc, il y a 6 propositions qui ont été retenues, dont celle-ci. Et les résultats, normalement, seront connus courant 2023.
Ouais, 6 sur 300, c'est que, oui, ils ont estimé qu'il y avait un intérêt, quoi.
Ils ont estimé qu'il y avait un intérêt et, en fait, ça n'a jamais été fait.
D'accord.
Il y a eu des contrôles au niveau départemental ou régional ou au niveau de la Fédération nationale, il me semble, mais il n'y a pas eu de contrôle sur la vision globale en fait, des montants publics.
Bon, j'imagine que déjà que la Cour des comptes se saisisse du sujet face à un rapport, pour vous, c'est une première victoire.
Oui, surtout que après, ça peut être sanctionné, ils ont des moyens de sanction, quoi. C'est pas juste un outil de contrôle à la Cour des comptes, donc si ça peut servir à ce qu'au moins mettre la lumière sur ça, parce que nous, quand on dit aux gens, oui, les chasseurs, ils reçoivent de l'argent public, il y a plein de gens qui ne savent pas. Donc, juste au moins qu'on mette un petit peu de lumière là-dessus et qu'on sache à quoi cet argent sert.
Autre question, j'en profite d'être avec vous, Léa, pour un petit point sur l'actu du collectif et puis des différents sujets que vous avez déjà soulevés. Ouais, je parlais du Sénat. Auquel vous êtes adressé, alors je ne me rappelle plus, je me mélange dans le calendrier, c'était peut-être il y a un an, je ne sais plus.
Hein. Alors oui, c'était en septembre qu'on a lancé la pétition et elle a été clôturée en novembre. Et nous, donc, on est allé au Sénat en décembre.
Une pétition et une audition au Sénat parce que vous demandiez à ce que la chasse soit interdite les mercredis et les dimanches. Hein.
Alors oui, ça c'était la première mesure de la pétition, c'est une pétition
oui.
Qui avait... On voulait 5 réformes, en fait, dont celle-ci.
Oui, celle-ci, c'était la plus marquante, excusez-moi. Oui. Alors, les sénateurs, oui. Bon, déjà, est-ce qu'ils vous ont bien reçu? Parce que les sénateurs, il y en a pas mal de chasseurs, hein, je ne veux pas dire, mais bon.
Oui, après, alors bon, l'intervention au Sénat, l'audition au Sénat, ça s'est bien passé. Hein, c'était vraiment, l'idée, c'était pour eux de savoir sur quoi est-ce qu'ils devaient travailler.
Ouais.
Et voilà, donc c'était plus approfondir, en fait, les revendications qu'on avait et comprendre les problèmes qu'on soulevait. Donc
bon.
Après nous, il y a eu d'autres auditions, de plusieurs acteurs divers du monde de la chasse, des associations écologistes aussi ou anti-chasse. Et donc le rapport officiel devrait sortir à la rentrée pour expliquer en fait quelles propositions peuvent être retenues ou pas et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de toutes les auditions, tous les gens qui ont été entendus et des propositions initiales, donc de nos propositions initiales.
Donc, et là, bon, je sais pas, alors les sénateurs, je sais pas s'ils se prêtent trop la confidence, mais vous avez soit des rumeurs ou quelques indices sur des choses qui pourraient être en votre faveur ou répondre à vos demandes ou pas du tout?
Si, apparemment, alors là, il y a Patrick Chaise, donc qui est le rapporteur du rapport,
ouais.
De la commission, pardon. A été interrogé donc par Public Sénat la semaine dernière. Et du coup, donc, il a dit d'avance qu'il n'y aurait pas d'interdiction de chasse le mercredi et le dimanche et pas de restriction non plus des armes. Donc, pas d'armes moins puissantes. C'était une autre demande qu'on avait parce qu'il faut savoir que là, les armes de chasse, elles peuvent aller jusqu'à 5 km dans la meilleure des conditions, mais en tout cas très loin.
Mmh.
Par contre, donc, ce qui sera proposé, c'est un permis de chasse plus exigeant. Une formation continue des chasseurs et un renforcement des règles de sécurité qui existent déjà, mais qui sont, selon nous, insuffisantes, même si elles sont respectées.
Mi-figue, mi-raisin, même si ça avance d'un poil.
Disons que pour nous, s'il n'y a pas la communication, le renforcement des règles de sécurité, c'est bon, d'accord. Mais si déjà les armes, s'il n'y a pas de restriction dans la portée des armes et pas d'interdiction de chasse par semaine ou deux, enfin, nous, on a montré par les témoignages qu'on reçoit et que c'était impossible de partager l'espace avec des gens qui sont armés et qui ont des armes qui vont jusqu'à 3 km. Enfin, même si on délimite des zones de chasse, c'est impossible. Enfin, ils prennent toute la place. On va dire, à partir du moment où ils sont là, ils prennent toute la place. 3 km de rayon autour d'une zone, c'est énorme. Donc, pour nous, c'est clairement, clairement insuffisant. Après, on ne s'attendait pas non plus à des miracles, mais bon.
Bon, par contre, là où il y a un domaine, un secteur sur lequel ça avance et j'ai le sentiment que vous êtes en train de gagner, c'est l'opinion publique.
Oui, bah alors ça, le problème, c'est que ça fait un moment quand même que les gens, qu'il y a des sondages et que les gens sont très très clairement contre au moins la chasse le dimanche, voire deux jours par semaine, et voire la chasse tout court. Mais bon, l'idée de la chasse le dimanche, c'est quand même pas nouveau. Ça fait des années que l'association elle se bat pour ça et que l'opinion publique est complètement favorable. Enfin, plus de 80%, c'est énorme. C'est pas une petite majorité. Donc pour nous là, c'est clairement un déni de démocratie, quoi, de pas accepter ce que tout le monde demande, quoi.
Alors du coup, ça me fait penser, excusez-moi là. À la référence, ça me fait penser à Al Capone. La police américaine n'a pas eu sur ses affaires, je ne sais plus trop lesquelles, mais bon, ce qu'on lui reprochait, tout le monde savait, mais il a eu sur sa comptabilité et ses impôts. Donc vous espérez peut-être que ça passe par les chiffres de la Cour des comptes, une victoire dans votre bataille contre la chasse, non ?
Bah, en tout cas, on pense que ça peut être un élément, oui, ça peut en faire partie. C'est important et c'est quelque chose qui n'a pas trop été remis en cause jusque-là, donc oui. Clairement, et puis montrer aussi peut-être que justement il y a vraiment des liens entre l'État et la chasse. Il y a clairement une influence entre les deux et une histoire de lobby qui fait que c'est encore plus difficile de l'énoncer et de lutter, mais c'est aussi ce qu'on voudrait montrer.
Un dernier mot, Léa, autour de la ferme.
J'aurais juste un truc après, je ne sais pas si je peux dire une phrase aussi.
Si, bien sûr, vas-y.
Okay. Non, on a aussi un livre en cours là, qui est terminé et qui paraîtra en octobre, ouais. Aux éditions Le Duc. Donc c'est un livre qui parlera du collectif.
D'accord.
Qui expliquera nos actions en fait, avec et puis les mesures qu'on propose, une boîte à outils et voilà un petit peu tout ce qu'on a fait jusque là.
Bon, eh ben, ça sera pour moi l'occasion de vous rappeler qu'on parle de ce livre à la rentrée.
Oui.
à la rentrée en octobre, parce que moi je serai rentré avant, vous faites ce que vous voulez. Léa, un dernier mot autour de l'affaire qui a malheureuse, mais qui a entraîné la création de votre collectif. Hein. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice, un jour un chasseur, la mort de Morgan Keane, tué par un chasseur alors qu'il était dans son jardin tranquillement il y a un peu plus d'un an et demi de ça. On en est où de cette affaire ? Bon, c'est la justice va pas vite, donc bon, là on en est où ?
Alors là, normalement, le procès il aura lieu en 2023. On n'a pas de date encore, donc voilà.
Procès en 2023, et donc le chasseur est lui seul au tribunal ou il y a d'autres gens autour, je sais pas, qui pourraient être un peu responsables de ce qui s'est passé ce jour-là ?
Ben, nous, on espère qu'au moins le directeur de la battue, parce que ça montrerait justement qu'il y a une prise de conscience. Que la responsabilité, elle n'est pas qu'individuelle lors de ce genre d'accident, entre guillemets. Et c'est vraiment ce qu'on veut montrer depuis le début, en fait, que c'est une chose que, bien sûr, le tireur ou la tireuse est responsable de ce qu'il a fait, mais qu'autour de lui, il y a ses collègues de battue, il y a le directeur de battue, et puis, il y a aussi, dans le cas de Morgan, pour nous, ce qu'on dénonce, c'est l'État qui a autorisé une dérogation en plein confinement, qui a autorisé qu'un chasseur change de département alors que nous, on n'avait pas le droit de se déplacer d'un kilomètre. Et c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, et l'impunité dont les chasseurs profitent au niveau judiciaire, et au niveau des institutions. Mais voilà, l'idée, c'est de montrer que la responsabilité, effectivement, elle est partagée et qu'elle...
Ouais, c'est pas juste un accident malheureux dû à une personne perdue au milieu de nulle part, quoi.
Non, voilà, pour nous, il y a vraiment... je pense que c'est important de montrer que c'est un problème de système. C'est pas juste le problème d'un individu, même si c'est aussi le problème d'un individu, bien sûr. Mais on voudrait que ça aille plus loin.
D'accord. Bon, affaire à suivre.
Ça changera rien, disons, pour nous, ça changera rien ça changera rien. Que seulement le tireur soit condamné et qu'il n'y ait aucune remise en cause derrière de l'activité en général, ça sera clairement pas suffisant si c'était le cas au procès.
D'accord, très bien. Bon, rendez-vous en 2023 donc pour ce procès. Rendez-vous aussi l'année prochaine pour ce rapport de la Cour des comptes sur les financements publics aux associations et aux fédérations de chasse que vous avez obtenu. Et puis rendez-vous, Léa, donc au mois d'octobre pour la publication de ce livre.
Oui, très bien.
Vous avez déjà le titre ?
Oui, ça va s'appeler chasser tue aussi des humains.
Merci pour l'info. Merci Léa, à bientôt.
Voilà. Merci à vous.